Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou d'avoir pris part à ce tour d'horizon via radiovienouvellefm.com. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de plusieurs sujets. Donc, de l'écart entre les régions et la métropole, du financement empoisonné en éducation, de l'observatoire linguistique, de l'anglais qui est favorable aux immigrants et de prostitution et de pénalisation du client en France. Nous allons voir qu'il est question de tremplin et de vice du droit. Tout d'abord, parlons de l'écart entre les régions et la métropole. Eh bien, dans le contexte, Mathieu Bock-Côté nous parle d'un registre des armes à feu. Et donc, le titre de son article, c'est « Un registre, pas de registre ». Cet article-là a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal. Ici, je ne veux pas parler du débat entre est-ce qu'on doit avoir un registre des armes à feu ou non. J'aimerais plutôt parler d'un élément qu'il soulève, parce que la question du registre des armes à feu va diviser Montréal et les régions du Québec. Ce n'est pas d'hier qu'on parle d'un schisme entre les régions et Montréal. J'ai vécu 10 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean et maintenant je vis dans l'Outaouais, qui est quand même à quelques heures, à 2 heures de Montréal. Et on voit très bien que à l'extérieur de Montréal, il y a une autre façon de parler, effectivement. Et c'est ce que soulève Mathieu Bock-Côté, qui lui vit en banlieue de Montréal. Mais il a observé ce phénomène-là, et qui n'est pas secret, qui n'est pas caché, ça fait longtemps qu'on en parle. L'ADQ, par exemple, de Mario Dumont, était un premier signal qui était lancé pour dire à Montréal, « Hé, attention, vous nous avez mis de côté les régions, mais on a notre mot à dire, nous aussi. » Et voici ce qu'il dit. « Dès qu'on parle des régions dans nos débats publics, c'est avec un sentiment de supériorité morale qui pue le snobisme, bon chic, bon genre. » C'est un peu comme s'il y avait deux catégories de citoyens au Québec, les éclairés qui habitent 3 ou 4 quartiers de Montréal et les péquenauds qu'on rencontre dès qu'on sort des ponts et qu'on s'enfonce dans le pays profond. Eh bien, c'est exactement ça. Il met les mots justes sur un sentiment qui est vécu par plusieurs personnes des régions. Comme si à Montréal, dans 3-4 quartiers là, où est-ce qu'on est bien pensant, où est-ce qu'on est bon chic, bon genre, où est-ce qu'on croit que tout le monde doit penser comme nous, eh bien, le reste des régions, ils ont juste à s'adapter, ils ont juste à évoluer. C'est comme ça qu'on pense dans ces quartiers-là, où est-ce qu'autour d'un café, on va réinventer le monde, mais on va réinventer le monde d'une manière à ce que ça ne ressemble pas à qui on est vraiment. Or, j'ai pas seulement vécu dans 2 régions du Québec qui sont extérieures à Montréal. Puis en passant, je suis né à Montréal. Je ne suis pas né à l'extérieur de l'île de Montréal. Je suis né sur l'île de Montréal. Et savez-vous ce qu'on disait quand j'étais jeune? C'est que s'il n'y avait pas le pont La Chapelle, il y aurait encore des dinosaures à Laval. Et donc, juste pour vous dire qu'on disait cela dans les années 70. Début 80. C'est pas d'hier que tout ce qui est en dehors de Montréal, c'était comme c'est bon, mais c'est pas comme Montréal. Montréal, c'est la ville. Et c'est pour ça que moi, je crois que c'est important qu'on en parle, parce que c'est important que les régions puissent s'exprimer, que les régions puissent exprimer leur idée, revendiquer leur idée, et soutenir les idées qui leur ressemblent. Plus qu'il va y avoir des débats dans notre société, plus qu'on va s'exprimer, mais plus qu'on va trouver des consensus qui rallient un plus grand nombre et non pas favoriser une certaine clique qui vit dans un milieu géographique clos et qui ne ressemble pas à l'ensemble de la population. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse débattre des sujets, on puisse sortir des cadres, on puisse s'exprimer. Si on pense de la même façon, on le dit, mais si on pense différemment, on le dit également. Moi, il y a un sujet que j'aimerais débattre ce matin, c'est le financement en éducation. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, on devrait réinjecter de l'argent en éducation » et c'est pour ça que le gouvernement a dit dans son dernier budget « OK, on va remettre de l'argent en éducation, c'est vrai, c'est difficile, il y a eu des coupures, on a demandé à tout le monde de serrer la ceinture. » Mais le problème, moi je suis d'accord qu'on investisse en éducation. Écoutez, j'ai un bac puis j'ai une maîtrise en éducation, je pense que j'y crois. Le problème, c'est que le financement est mal pensé, il est mal géré. Et les coupures aussi, des deux côtés. Ce n'est pas juste dans l'argent qu'on injecte, c'est aussi dans là où est-ce qu'on structure l'organisation. Il y a deux choses là-dedans. Dans un premier temps, Daphné Dionvient, sur la plateforme du Journal de Montréal, nous parle de réinvestissement en éducation, un cadeau empoisonné selon des profs. Elle, ce qu'elle va soulever, elle va soulever des témoignages que, en gros, si je vous résume ça en quelques mots, c'est que oui, il y a de l'argent de la part du gouvernement, de l'argent neuf, mais c'est dans des programmes tellement ciblés, tellement précis, que certains milieux se disent « ouais, mais il n'est pas là notre problème, donc on n'a pas le droit aux argents ». Et ça, c'est symptomatique de quoi? D'un système centralisé. Si on a une politique qui, on dit en anglais, « one size fits all », si on a une politique mur à mur, eh bien, qu'est-ce que ça produit? Ça fait en sorte que là où est-ce qu'il y a des particularités, eh bien, on est obligé de dire, « ben non, je ne fit pas. Ce n'est pas pour moi, en d'autres mots. » Et encore une fois, c'est symptomatique de ce qu'il y a un lieu central qui décide, et là, dans ce cas-ci, c'est Québec. Mais encore une fois, ce sont les régions qui perdent. Et c'est pour ça, moi, je crois à un système plus décentralisé. Le meilleur exemple, c'est la Fédération des établissements d'enseignement privé qu'on appelle la FEEP. La FEEP, cette fédération-là des établissements d'enseignement privé, regroupe 190 écoles puis fonctionne avec un maximum d'autonomie. Ils n'ont pas de commissaire élu aux frais des contribuables. Et puis, eux autres, si on les compare aux commissions scolaires, les commissions scolaires, eux, regroupent entre 35 et 40 écoles. On va dire en moyenne 38 écoles. Donc, la Fédération des établissements d'enseignement privé est en mesure de soutenir pratiquement 5 fois plus d'écoles dans leur mission éducative, avec à peu près 25 employés. C'est extraordinaire, mesdames et messieurs. Et, comme vous le savez, les écoles privées sont subventionnées à 60% comparativement aux écoles publiques, qui sont à 100%. Le 40% qui reste, ce sont les parents qui payent l'excédent en plus de payer les mêmes taxes et les mêmes impôts. Et ça fait en sorte que dans le palmarès des écoles, les écoles privées réussissent mieux. Vous allez me dire, oui, mais ils choisissent la crème. Ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai dans certaines écoles, oui. Mais il reste que néanmoins, même s'ils choisissent la crème, parmi la crème, il y a les meilleurs, il y a les bons, puis il y a les moins bons. Et ça, dans une classe, ça génère une dynamique. Maintenant, si je vous l'accorde, oui, c'est vrai, il y a des difficultés qu'on retrouve au niveau public, parce que si on envoie les meilleurs dans les écoles privées, eh bien, on se retrouve avec des élèves moins bons. Encore une fois, c'est une question de philosophie. Parce qu'il y a quand même encore de bons élèves dans les classes, des élèves qui réussissent. Mais le problème, c'est qu'on intègre les élèves en difficulté dans les classes. Encore une fois, c'est un choix administratif. Et donc, s'il y avait plus de décentralisation, si au lieu d'avoir 70 commissions scolaires, on aurait 17 entités administratives qui couvrent un plus grand éventail et qui donnent plus de latitude aux écoles, afin que chaque milieu détermine son ou les besoins pour que les élèves puissent réussir puis atteindre les cibles du ministère de l'Éducation. Et là, à ce moment-là, le pouvoir décisionnel serait redistribué au niveau de chaque école. Et pour regrouper ces 190 ou ces 200 écoles-là, eh bien, à ce moment-là, on aurait une genre de commission scolaire, mais qui aurait moins d'emprise et qui coûterait beaucoup moins cher à opérer. Et là, à ce moment-là, avec les mêmes enveloppes, on pourrait faire des coupures dans l'administration, être plus efficace, puis redistribuer l'argent dans les écoles et le pouvoir décisionnel dans les écoles. Donc, si le problème, c'est en mathématiques, bien là, on va développer un programme pour aider les élèves à être plus performants en mathématiques. Si le problème, c'est au niveau de la lecture, bien c'est ça qu'on va développer. Alors, c'est important d'investir là-dedans. Oh, je vois que le temps file et j'ai beaucoup de sujets à discuter. Un nouvel observatoire prêt à déboulonner les mythes canadiens, eh bien, c'est un observatoire national en matière de droit linguistique au Québec qui va voir le jour aujourd'hui même. Et donc, ça a pour but de mettre les pendules à l'heure en matière de protection du français. Et ça nous est... Ces informations nous proviennent du Devoir. La mise sur pied de l'Observatoire sera annoncée aujourd'hui à l'Université de Montréal. Les dirigeants et fondateurs de l'organisme comptent créer un lieu de référence en matière de droit des minorités linguistiques au Canada, francophones hors Québec, anglophones du Québec et chez les peuples autochtones. C'est louable de le faire, mais ce que je crains, c'est que justement, on fragilise le français au Québec, ici. Mais le côté positif, c'est qu'on va arrêter d'ignorer les Français hors Québec. On a besoin de leur tendre la main aux Français hors Québec. En d'autres mots, moi, j'aurais préféré un observatoire sur le français parce que, premièrement, le français est quand même menacé ici au Québec. Vous allez dire, arrête, Éric. Oui. Vous allez voir pourquoi. Parce que même s'il y a des règles claires et précises dans la région de Montréal sur l'affichage du français, ce n'est pas toujours respecté. Dans les milieux de travail, on ne parle pas toujours en français. Et le français, il ne faut pas le prendre pour acquis, même s'il y a des lois qui protègent cette langue. Je crois qu'on ne la valorise pas suffisamment. Maintenant, un des éléments qui me pousse à croire qu'il y a des indicateurs de danger, c'est un autre article du Devoir. Et ce que Robert Dutrisac nous apprend, c'est que l'anglais est mieux que le français pour les immigrants. Il ne faut pas oublier que, justement, le Québec est en train de se repeupler par les immigrants. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène que le Devoir soulève. Écoutez bien ce qu'il dit par rapport aux nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants qui ne parlent que le français éprouvent plus de difficultés à se dénicher un emploi au Québec que ceux qui ne connaissent que l'anglais. Le taux de chômage de ces immigrants francophones est de 40 % supérieur à celui des nouveaux arrivants anglophones. Donc, ce qui ressort de la compilation obtenue par le Devoir, eh bien, c'est que le taux de chômage des immigrants récents, qui sont arrivés depuis 5 ans au moins, qui ne parlent que l'anglais, atteint 16 % alors qu'il se gonfle à 23 % chez les mêmes immigrants récents qui ne parlent que le français. Et donc, ceux qui ne parlent que le français, en d'autres mots, en résumé, ont plus de difficultés à se trouver un travail que ceux qui ne parlent que l'anglais. Et donc, ça, c'est un symptôme qu'on doit faire attention, justement, à ce qui se passe dans nos milieux de travail et s'assurer que ce soit les nouveaux arrivants ou que ce soit les Québécois, qu'on puisse parler en français et que le français puisse être accessible dans tous les milieux de travail ici au Québec. Maintenant, je ne suis pas contre à ce qu'on apprenne l'anglais. Je crois que tous les Québécois doivent maîtriser spécialement l'anglais parce que c'est la langue internationale. Mais on ne doit pas le faire au détriment du français. Et donc, pour les quelques secondes qui me restent, on parle encore en France de la prostitution et de la pénalisation du client. Il y a deux articles dans le Figaro qui sont importants. Pénalisation du client, les dérives de l'antisexiste d'État. Eh bien, Pierre-André Taguieff nous parle ici de la question centrale du consentement. Et je vous en parlais hier de ça. Et vous irez lire là-dessus parce que je vous ai dit hier que la question du consentement de la prostituée est un point central en guise de tremplin pour de prochaines lois qui vont amener la légalisation de la prostitution. Et l'autre article, encore une fois sur le Figaro, c'est Nicolas Garderès qui nous parle de la loi sur la pénalisation du client, une aberration juridique. Lui, ce qu'il dit en résumé, c'est que si la loi ne punit pas les prostituées, donc elle voit cette pratique sexuelle-là ou ce service sexuel-là comme étant légal, mais en pénalisant le client, elle dit que la consommation de ce service-là, en échange d'argent, devient illégale. Alors, elle dit, il y a une incongruence ici. Encore une fois, ça va devenir un tremplin pour la légalisation de la prostitution. Sur ce, chers auditeurs, j'ai déjà dépassé le temps. Et donc, c'est pour ça que je dois clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. N'oubliez pas qu'à partir du 11 avril, cette émission sera diffusée du lundi au vendredi à 16h, toujours sur les ondes du 92,7 FM et sur radiovienouvellefm.com. En terminant, n'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou radiovienouvellefm.com. Je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!